Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Sport.
François Pinet.
On est de retour sur RMC dans l'Intégral Sport jusqu'à 19h avant Bartoli Time. Vous connaissez évidemment votre rendez-vous du dimanche. On est avec Roland Courbis. Salut coach.
Salut à tous.
Et oui, d'habitude, il y a un match à cette heure-là avec Marion Hédalo. Salut Marion.
Salut, comment ça va?
Bah, ça va très bien, et toi?
Oh, merveilleux.
Alors même si on n'a pas de match, on a quand même une heure de foot à vous proposer dans cet Intégral Sport. Oui, il n'y a pas de match, vous le savez, puisque des matchs ont été reportés pour permettre à nos équipes françaises de briller sur la scène européenne, et notamment le Paris Saint-Germain, on va en parler dans un instant. On a effectivement des infos à vous donner, quelques coulisses avant le match du PSG face au
Barça. Vu le résultat de Liverpool, Liverpool va être jaloux de ce qui se passe en France.
Ah bah, on va en parler de tout ça dans un instant, je vais vous donner les résultats du foot anglais. On va revenir aussi sur les matchs de cet après-midi en Ligue 1, 29e journée, avec la victoire de Nantes, 1-0 au Havre, victoire très importante en vue du maintien. Un partout entre Clermont et Montpellier. Supporters de ces deux équipes, n'hésitez pas à vos réactions, le 32-16, vos questions aussi, le hashtag RMC Live sur X, et puis l'appli RMC Direct Studio ouverte bien sûr pour tous vos messages et toutes vos réactions. On parlera aussi du match de ce soir, 20h45, Lyon face à Brest, avec des Lyonnais qui peuvent pourquoi pas se rapprocher de places européennes. Qui l'eût cru après un début de saison calamiteux, Lyon qui peut se rapprocher de l'Europe. Est-ce que vous y croyez? N'hésitez pas à venir nous le dire, supporters lyonnais au 32-16. On parlera bien sûr de cette équipe brestoise également, tout à fait étonnante, qui elle peut se rapprocher de la Ligue des Champions. Et puis, coach en a un petit peu parlé, le foot anglais c'est en ce moment, avec la Première Ligue, il y a trois clubs en tête, vous le savez. Liverpool a perdu gros en perdant sur sa pelouse face à Crystal Palace, 1-0. Les Reds restent à 2 points derrière Manchester City, vainqueur hier de Luton, et Arsenal pour l'instant est tenu en échec sur son terrain face à Aston Villa, 0-0 entre les deux équipes. Arsenal qui est pour l'instant à 1 point derrière Manchester City. Et puis peut-être une information importante ce soir, puisque le Bayer Leverkusen en Allemagne pourrait devenir champion en cas de victoire face au Werder Bremen. Et pour l'instant, le Bayer mène 1-0 face au Werder grâce à un but de Victor Boniface sur pénalty. Donc le Bayer qui se dirige vers sa première victoire, son premier titre en Bundesliga. Allez, juste avant, c'est promis, on va parler du Paris Saint-Germain avec Arthur Perrault qui nous a rejoint en studio. Salut Arthur.
Salut messieurs, dames, bonjour à tous.
Et oui, boss, là c'est la dernière ligne droite avant évidemment le quart de finale retour face. Bah, faut bien que tu bosses de temps en temps.
Hein. Merci.
Face au Barça, ça sera mardi à Montjuic, donc, et non pas au Camp Nou, après la victoire 3-2 du Barça au match aller face au Paris Saint-Germain. Comment ils sont? Tu as quelques infos à nous donner sur l'état d'esprit des Parisiens avant ce quart de finale retour.
Oui, des choses qu'on a déjà pu entreapercevoir après la rencontre de mercredi soir au Parc des Princes. Il y avait d'abord un programme assez chargé pour les joueurs. Il y avait un décrassage jeudi, une journée de repos accordée vendredi, et entraînement donc hier matin et ce matin du côté du campus PSG à Poissy. Ce que l'on sait, c'est que tout au long du week-end, l'optimisme est resté de mise dans les rangs parisiens, pour en avoir parlé notamment avec un habitué du campus PSG qui me dit mot pour mot: bien sûr que l'on y croit, qu'il y a de la place, nous allons nous qualifier pour les demi-finales. Ce discours, il revient vraiment partout du côté du campus PSG, que ce soit dans le staff, que ce soit aussi dans les entourages de joueurs. Évidemment que c'est quelque chose qui peut contraster avec ce que l'on a connu les années précédentes, où il y a pu y avoir un peu de pression dans cet effectif parisien. Et bien depuis l'arrivée de Luis Enrique, qui n'hésite pas, lui, à se placer en première ligne, à protéger ses joueurs et à les placer dans une forme de bulle. Et bien là, voilà, cette pression semble avoir totalement disparu et a laissé place à de la confiance et donc de l'optimisme.
Mmh. Optimisme, confiance, voici les mots que nous donne Arthur, toujours bien informé avant ce match contre le Barça. Vous partagez, vous comprenez d'ailleurs qu'il y a cet état d'esprit. Alors, état d'esprit, avoir envie de faire mieux, ça me paraît évident. Mais après, il faut quand même que ça se voit et que ça se traduise sur le terrain, Marion.
On a vu des belles choses hein, quand même, même si ça n'a été que le premier quart d'heure de la première mi-temps, le premier quart d'heure de la seconde mi-temps. Ouais. Mais il est évident que le Barça, m'inquiète vraiment. Et quand on voit effectivement le niveau que présente en ce moment, en tout cas Kylian Mbappé, qui est quand même la seule star avec Dembélé aujourd'hui au Paris Saint-Germain. Alors quand je dis star, il faut comprendre aussi ce que je veux dire. C'est-à-dire que il y a des très bons joueurs au Paris Saint-Germain, mais c'est grâce quand même à ce collectif qui est en train de créer Enrique qu'on voit un certain niveau. On n'a quand même pas été habitué tellement à ça à Paris. Donc, je dirais que si Kylian se révolte
par rapport au match aller.
Je dirais qu'on peut voir un match totalement différent et que le Paris Saint-Germain peut se sauver sans aucun problème. Mais là, c'est un autre problème entre le coach et Kylian.
Mais justement, sur Kylian, tu as peut-être des choses à nous dire aussi, Arthur.
Oui, il y a eu lui aussi, de sa part, une véritable prise de conscience. C'est quelque chose qu'il a abordé avec pas mal de coéquipiers. Il est conscient qu'il aurait pu apporter beaucoup plus à l'équipe lors de ce match aller, qu'il aimerait vraiment, pendant ce match retour, montrer un tout autre visage. Ce n'est pas une forme de mea culpa, mais c'est montrer à quel point psychologiquement, en ce moment, c'est compliqué pour lui. Il vit un passage à vide. C'est quelque chose de concret, d'assumé, même par des personnes qui l'entourent. Donc, voilà, il est conscient de cette situation et que forcément, que les supporters vont attendre une toute autre prestation de sa part au stade de Montjuïc.
Coach, tu crois un changement dans justement l'attitude aussi de Kylian Mbappé qui a posé question sur le match?
Oui, mais bon, je pense que ça sera difficile de faire pire que ce qu'on a pu voir. Puisque,
je suis assez d'accord.
On sait très bien que, et je le dis suffisamment souvent, et je ne dis pas que des conneries, que l'intersaison où il aurait dû partir, ce n'est pas l'intersaison à venir, où tu as le championnat d'Europe, plus les Jeux Olympiques, plus la possibilité de gagner la Champions League avant de partir, plus l'espoir du Ballon d'Or. Ça fait beaucoup, ouais, la phrase on la connaît, ça fait beaucoup pour un seul homme. Donc maintenant, bon, mais j'espère que tout va rentrer dans l'ordre. J'espère aussi que Luis Enrique va mettre une équipe en place claire, nette, précise. Ouais. Parce que là, c'est quand même difficile à suivre. Et si en plus, tu n'es pas en forme, ben là, c'est plus difficile à suivre. C'est tout simplement impossible. Ensuite, le tirage au sort. Tout le monde souhaitait Barça ou Dortmund. Eh bien, il y a eu Barça. Le seul petit détail qui, pour moi, est énorme, c'est que le premier match s'est fait au Parc des Princes. Et c'était quand même mieux que ce soit le deuxième match au Parc des Princes, parce que là, on a quand même des souvenirs de remontada. Mais là, la remontada, mais il n'y a pas de souvenirs. Je vais même plus loin, je me demande si ce n'est pas mieux psychologiquement d'avoir un but de retard pour faire le match retour plutôt qu'un but d'avance où tout le monde serait en train de trembler en se disant « oui, 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 oui ». Y compris même Luis Enrique, parce que Luis Enrique, c'est bien gentil de lui servir sur un plateau le 6-1 du match retour, qui pour moi, le responsable numéro 1, c'était l'arbitre. Mais Luis Enrique, je crois que c'était l'entraîneur du match aller aussi, où il y a eu 4-0 pour le Paris Saint-Germain. Donc c'est pour ça que, rappelons-nous un petit peu de tout, comme ça, ça nous évite. Et si moi, j'oublie quelque chose, ne vous gênez pas, vous me le dites et je me vexe pas.
N'hésitez pas, hashtag RMC Live sur X. Marion va te répondre peut-être, je sens que tu as envie de répondre.
Oui, j'ai envie de répondre.
On va en parler dans un instant. D'accord. Vous restez avec nous, s'appelle un teasing.
Alors,
voilà, l'appli RMC Direct Studio aussi.
Pas trop dans le...
Et puis 32-16 pour nous rejoindre. Arthur, je te garde avec moi, parce qu'on va parler aussi de l'arbitre. Ça pourrait avoir son importance aussi. On connaît le nom de l'arbitre, donc restez avec nous. Et peut-être justement, si vous avez une compo à nous donner, venez nous dire ce que vous en pensez. Quelle compo doit aligner Luis Enrique?
Il y en a une toute simple.
Et tu nous la donneras dans un instant.
Ça ressemble pas à Luis Enrique.
Dans un instant, le teasing avec la compo de coach, pour le PSG face au Barça. Restez avec nous dans l'Intégral Sport.
RMC Intégral Sport.
François Pinet.
18h12 sur RMC, vous écoutez l'Intégral Sport jusqu'à 19h et Bartoli Time avec coach Courbis, Marion Hédalo. D'habitude, il y a un match de Ligue 1. On parlera de la Ligue 1 quand même dans un instant, puisque Nantes s'est imposé au Havre 1-0. On sera avec Christophe Lécuyer, notre commentateur qui a commenté cette rencontre pour RMC. Puis Clermont-Montpellier, 1-partout entre les deux équipes. On ira aussi du côté de Lyon avant Lyon-Brest, match à 20h45 à suivre, bien sûr, sur RMC. En ce moment, le Bayer Leverkusen va vers la victoire finale en Bundesliga. Il mène 1-0, les joueurs du Bayer Leverkusen face au Werder, avec donc un but de Boniface. On joue la 43e minute et 0-0 avant la fin de la première période entre Arsenal et Aston Villa. On était en train de parler du quart de finale retour entre le Barça et le Paris Saint-Germain. Il y a eu 3-2 à l'aller, on vous le rappelle, mais ça vous le savez. Arthur Perrault est toujours là. Dans un instant, on va vous parler peut-être de la composition d'équipe. Mais avant tout, Marion, je crois que tu voulais réagir à ce qu'avait dit coach sur le rôle de Kylian Mbappé peut-être, sur
c'est ça. Non, mais je pense vraiment, et là c'est un peu un coup de gueule, mais je pense que si Kylian Mbappé n'était pas français, je pense que nous ne serions pas aussi doux avec lui. Hein. Vraiment, un joueur qui depuis des années est entre eux, oui j'ai allé au Real, non, oui, si, peut-être un jour, mais pas maintenant, mais maintenant, mais je signe, mais je ne signe pas, mais on ne sait pas, et qui en plus montre ça en Ligue des Champions, parce que c'est quand même en Ligue des Champions qu'on l'attend. C'est, voilà, on sait très bien qu'il est capable de faire des prouesses face au Havre, c'est pas ça qu'on lui demande, et moi je suis quand même gênée de cela. Et sur Enrique, j'en entends un peu trop de mal à mon goût, parce que je trouve que c'est un entraîneur, c'est la première fois depuis Ancelotti que le Paris Saint-Germain a un entraîneur qui a gagné la Ligue des Champions et qui a donc presque cette habitude, je veux dire en tout cas des grands rendez-vous. On voit quand même quelqu'un qui sait tenir son vestiaire. Moi j'ai entendu pendant des années, ah oui mais le Paris Saint-Germain n'est pas une institution, ah mais il faut un coach qui ait de la poigne. Là, il est là, et je vois que ça ne plaît pas à tout le monde. Moi, j'attends beaucoup plus de Kylian Mbappé, mais je suis sûre qu'il en est capable et qu'il va me faire mentir la semaine prochaine.
Ce qui ne plaît pas à coach, là, vrai, je vais le laisser parler, mais c'est sans doute les compositions d'équipe de Luis Enrique que tout le monde ne comprend pas.
Pas les compositions d'équipe.
Oui, tu n'avais pas compris la compo au match aller.
Voilà, si tu veux... J'essaie, c'est une habitude, alors je ne sais pas si c'est une mauvaise habitude, que ce soit dans n'importe quelle situation, j'essaie de me mettre à la place des personnes. J'essaie de me mettre à la place d'un président, j'essaie de me mettre à la place d'un joueur, j'essaie de me mettre à la place d'un arbitre quand il y a un problème. J'essaie, je ne dis pas que j'y arrive. Là, j'essaie de me mettre à la place des joueurs par rapport à ce que j'entends, et notamment que la composition d'équipe, elle est donnée le matin du match. Elle est pratiquement toujours différente.
Pas le matin, pas le matin, Roland. 2 heures avant.
C'est encore pire.
C'est pas le matin.
C'est encore pire.
Ouais.
Et ensuite, on est surpris qu'il y a des joueurs qui justement sont un petit peu déboutés. Vas-y.
Par exemple, Marquinhos sur ce match-là, il joue la veille au soir et le matin même, il n'était pas au courant qu'il débutait sur le couloir droit.
Mais là, des erreurs, on en fait tous. Ben, je pense que au niveau où nous sommes, des erreurs comme ça, pour moi, ça passe dans un autre secteur, c'est la faute professionnelle. Donc c'est pas quand même compliqué de même si tu veux pas le donner pour des raisons tactique de peur que ça s'ébruite à tous tes joueurs. Mais les joueurs qui rentrent, que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas joué, qui changent de poste, tu peux quand même en discuter la veille, que le gars il s'endorme tranquillement en sachant ce qu'il doit faire le lendemain. Et ensuite, bon, mais on est tous surpris. Mais l'idée, c'est pas qu'on soit surpris. On s'en fout de nous, de savoir si on est surpris ou pas surpris. On essaie de comprendre où le Paris Saint-Germain veut aller avec cet entraîneur. Mais évidemment que je suis d'accord avec Marion que ce gars-là, il doit avoir d'énormes qualités. Mais il y a aussi peut-être quelques défauts. Et là, on essaie de comprendre et on n'y arrive pas. Si Marion arrive à comprendre, je vais presque faire une crise de jalousie. Donc je veux dire, pourquoi moi j'arrive pas à comprendre ?
Si, tu comprends très bien, Roland. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que en face, il y avait aussi le Barça qu'on n'attendait pas à ce niveau aussi. Hein, parce que moi, je repense quand même à quelques mois en arrière. Ah, c'est très bien, le PSG prend le Barça comme si c'était devenu un petit club.
Enfin, c'est quand même le rôle de l'entraîneur et du Paris Saint-Germain de connaître le niveau de ton adversaire et de savoir qu'ils sont capables de faire ce genre
de choses. Mais oui, mais le problème, c'est qu'il y a quand
de
même
pas
aussi...
être surpris.
Excuse-moi, Marion, mais avec une équipe claire, nette, précise, vu les joueurs que tu as, ça peut justement être une domination du Paris Saint-Germain.
Moi, je trouve quand même que les joueurs du Barça, à chaque poste, sont quasiment meilleurs tous qu'au Paris Saint-Germain. À part peut-être Kylian.
Mbappé, quand même.
Pardon ?
Mbappé, c'est ce que j'allais dire.
Voilà, Kylian, et c'est tout. Enfin, Dembélé, peut-être. Enfin, une fois qu'on a dit ça.
Dembélé, Ramos, Vitinha.
Ramos et Vitinha, meilleurs que les joueurs du Barça ou Mbappé, je ne suis pas convaincu quand même.
Il y a trois bons joueurs. Mais je pense qu'au Paris Saint-Germain, il y a 7 à 8 joueurs. Là aussi, je ne suis pas d'accord. Le fait que je ne sois pas d'accord, je le dis et je le répète, ça ne veut pas dire que j'ai raison. Mais c'est ma vision des choses. Dire, comme j'ai pu l'entendre de Luis Enrique, qui a 7 à 8 joueurs du Paris Saint-Germain ou du Barça.
Qui pourrait jouer au Paris Saint-Germain. C'est ce qu'il avait dit sur Twitch.
Sincèrement, j'en suis pas.
Un milieu avec Gundogan, ça fait quand même plus peur qu'un milieu avec Vitinha. Je ne veux pas être en.
Même si Vitinha était.
Bon et je veux pas le voilà. Je pense que en défense centrale c'est meilleur. Je pense qu'évidemment Ter Stegen c'est.
Ah oui, là il y a pas photo par rapport à Donnarumma sur le match en tout cas.
Voilà, je pense que il y a quand même.
Donc si j'ai bien compris, au tirage au sort, il fallait surtout pas tomber sur le Barça.
Et sans doute, et on l'a su un peu tard. C'est vrai, je pense qu'on s'est un peu emballé.
Arthur, tu voulais rajouter quelque chose?
Juste, il y a une stat qui est sortie aujourd'hui. Qui va faire plaisir à Roland. Luis Enrique a utilisé son 39e 11 de départ différent en 43 matchs sur le match aller face au Barça.
Ça résume bien la situation. Alors justement, c'est une transition toute trouvée. On continue de parler de ce match entre le Barça et le Paris Saint-Germain dans un instant. Avec vous d'ailleurs, j'ai un petit message à vous lire sur l'appli RMC Direct Studio parce qu'on nous donne comme ça des compositions d'équipe qui seraient pas mal pour affronter le Barça. Donc je vais vous en donner une. N'hésitez pas, réfléchissez, vous avez le temps. Enfin, pas trop parce qu'on revient dans moins de 2 minutes sur RMC. À tout de suite.
RMC
Intégral Sport. Si vous aimez les déjeuners animés, invitez-vous tous les jours à la table d'Estelle Denis dès midi sur AMC. On vous garde une place entre Fred Hermel, Perry Collégas, Emmanuel Dancourt, Daniel Riolo, et Vincent Cerroussi qui vient nous faire rire à 14h45. RMC, Estelle Midi, midi 15h.
C'est pour ça que je me lève tous les matins. C'est au cœur de chacun de nous. Pour ça, je mets l'écoute et l'humain au centre de tout. Et je fais respecter l'ordre pour me faire respecter. Parce que je crois que c'est ça qui fait avancer la société. Oui, c'est pour ça, la justice, que je fais ce métier.
Soyez au cœur de la justice. Devenez surveillant pénitentiaire. Inscrivez-vous au concours sur lajusticerecrute.fr. Ceci est un message du ministère de la Justice.
Je suis avec Léo, joueur de la team Betclic. Léo, ça va?
En pleine forme. Il y a des bons plans à aller chercher sur ce match.
Pas de bobo alors?
Oh, petite douleur au pouce, mais ça va pas m'empêcher d'ouvrir la Betclic.
À super match, super bon plan. Ce soir, Betclic booste les paris les plus populaires de ta soirée de Ligue 1 Uber Eats. Rendez-vous maintenant sur la Betclic pour profiter de tes bons plans et de centaines d'autres paris. Betclic, le partenaire officiel de la Ligue 1 Uber Eats. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Hey, trop de boulot? Tu sais si on a une bonne couverture dans cette boîte?
Ah oui, ici on a le top de la couverture, hein, en lin, en coton et même en marbre. C'est classe, mais c'est un peu froid.
Attendre des siècles une bonne couverture santé pour vos salariés, c'est du passé. Avec Aesio Mutuel, vos collaborateurs bénéficient d'une couverture santé adaptée à leur secteur d'activité et ses obligations et ont accès à des ateliers de prévention sur mesure. Aesio Mutuel, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Souscription, informations et conditions sur aesio.fr ou auprès de nos conseillers.
RMC Intégral Sport.
François Pinet.
18h21 sur RMC dans 40 minutes, c'est Bartoli Time en direct. Bien sûr, comme tous les dimanches, on est avec Mario Médalo, avec Coach Courbis, avec Arthur Perrault, puisqu'on est en train de parler du Paris Saint-Germain qui affronte le Barça, vous le savez. Ça sera mardi soir en direct sur RMC. À Barcelone, à Montjuïc, hein, après la défaite 3-2 en quart de finale retour de Ligue des Champions. Dans un instant, on parle bien sûr pour tous les amoureux de la Ligue 1 des matchs de cet après-midi, de la 29e journée, de la victoire de Nantes au Havre et du match nul entre Clermont et Montpellier. Pas mal de messages sur la composition, puisque c'est la question que je vous ai posée, que doit mettre Luis Enrique face au Barça mardi. Il y a par exemple Nicolas qui nous dit pour moi, avec le retour de Pedri qui pourrait effectivement être titulaire puisqu'il a repris un peu de rythme, il faut mettre Dani qui doit s'occuper de lui au milieu, entouré de Vitinha et de Zaïre Emery. Il met Ruiz sur le banc, c'est ce qu'il nous dit. Il met Beraldo aussi sur le banc et Barcola aussi sur le banc, qui ne rentre que si Mbappé ne fait rien. Et puis bien sûr, en défense, il nous la propose, Hakimi, Marquinhos avec Hernandez et puis Nuno Mendes. Voilà pour la défense. Il aurait bien voulu aussi voir Navas, mais bon, ça devrait être quand même Donnarumma titulaire. Arthur, tu as des petites choses? Alors, même si on connaît la composition que 2 heures avant, comme tu nous l'as dit,
oui, avec Luis Enrique. C'est toujours compliqué à J-2. Après, ce que l'on sait, Et ce qu'on peut rappeler, c'est que Achraf Hakimi fait son retour de suspension et que il devrait important. Donc débuter sur le couloir droit de la défense. Ça, c'est quand même déjà important. Donnarumma reconduit, c'est aussi la tendance. Au niveau de la charnière centrale, on se dirige vers l'association Marquinhos-Lucas Hernandez, comme vient de l'évoquer
Nicolas.
Nicolas, qui ne se trompe pas, avec Nuno Mendes sur le couloir gauche. Au milieu de terrain, Zaïre Emery devrait donc être associé à Vitinha et à Ruiz. Et finalement, c'est peut-être devant où il y a encore le plus d'interrogations, avec Dembélé.
Justement, notre auditeur, il nous a dit quoi devant ? Il nous a simplement dit.
Il ne s'est pas lancé.
C'est un peu aussi les échos qu'on a. C'est-à-dire que ce serait Dembélé à droite, Mbappé à gauche et un Ramos dans l'axe. C'est la tendance.
Il a écouté RMC, là, Luis Enrique ?
Mais il a écouté Coach Courbis, surtout.
Mais c'est en tout cas la tendance, même si Bradley Barcola a encore participé à l'intégralité de la séance de ce matin et qu'il est forcément très apprécié par Luis Enrique et qu'il pourrait débuter sur le couloir gauche. Mais ça voudrait dire que Kylian Mbappé, Roland, retrouverait une place.
Je sens que cette équipe, elle te plaît bien.
Il pourrait aussi. Avec Ramos. Voilà. Donc pas Mbappé.
Ouais, tu préfères les vrais numéro 9, c'est pour ça.
Ouais, ben oui. Mais, et en ce qui concerne Barcola, je crois qu'il est suffisamment intéressant pour être un joker de luxe, je dirais, et capable de rentrer en cours de match à la 60e minute où là. Tu vérifierais un petit peu où tu en es. Est-ce que tu as fait déjà le retard du but que tu es obligé de marquer ? Est-ce que tu es toujours marché ? Est-ce que tu es mené ? Parce qu'à ce moment-là, ce n'est pas non plus une obligation que Barcola rentre à la place d'un attaquant. Tu peux terminer avec 4
points. C'est plus ça parce qu'il est clairement en manque de rythme, en fait. On rappelle, il s'est blessé avec les Espoirs lors de son dernier match. Il est sûrement en seul retour et pour l'instant, il n'a pas vraiment eu tant de jeu. Donc c'est peut-être aussi pour ça que Luis Enrique est très heureux.
Cette équipe, qu'on vient de dire, qui est une équipe tout à fait clair, net,
avec des joueurs à leur poste, précise,
avec des joueurs à leur poste,
une forme de logique.
Sincèrement, j'aimerais la voir contre cette équipe du Barça, même sur le terrain du.
Mais tu
Barça.
Serais surpris qu'il n'y ait pas une petite justement touche Luis Enrique.
Mais non, j'espère, c'est Luis Enrique. Comme je pense qu'il écoute RMC, qu'il lit tous les journaux et tout.
Bien sûr.
Il va mettre l'équipe que tout le monde aimerait avoir en disant je vous ai surpris hein. Vous attendiez pas que je vous écoute. Donc je m'imagine marrant. Que ça peut être ça.
Ça serait marrant, il le dirait à Arthur Perrault d'ailleurs hein.
Non, mais est-ce qu'Arthur aussi a des petites infos sur le Barça ou pas du tout? Parce que moi j'aimerais bien savoir.
Honnêtement, on a vu le match hier du Barça, voilà, où il y a eu énormément de turnover de la part de Xavi. Pedri, potentiellement, il pourrait être titulaire parce que lui, il a repris du rythme, il a joué encore quelques minutes hier.
Christensen,
en revanche, il est suspendu, attention. Hein. Christensen et Sergio Roberto, il me semble.
Les deux, pardon.
Voilà. Et Arroyo, donc, serait quand même en défense centrale.
Voilà, et ça serait la même défense avec le jeune, la Garbizi, qui est pas mal. Hein.
Qui est pas mal. Alors, avec cette défense-là, on pense que le Paris Saint-Germain va pouvoir faire des prouesses, c'est très dur quand même. Moi, je suis atterrée un petit peu.
Des prouesses, tu as un but de retard.
Non, mais il faut arrêter de faire comme si le Barça c'était une petite équipe qui vient d'arriver. C'est Famagouste, non,
mais il y a qu'un but de retard.
On ne regarde que le Paris Saint-Germain en se disant oh là là, on ne fait pas ce qu'il faut, Enrique ne fait pas ce qu'il faut, etc., etc. Mais moi, je crois que la question n'est plus de savoir si on va mettre Asensio, Ramos, c'est aussi ce qu'il y a en face. Et moi, j'ai été très impressionnée par ce qu'il y avait en face. Roland.
D'accord, mais au match aller, j'aimerais te poser une question et que, si tu veux, tu arrêtes un petit peu ton chauvinisme, s'il te plaît. Sur le match aller, tu es content de ce que tu as vu du Paris Saint-Germain par rapport à ce qu'on aurait pu voir? Tu es content de ça?
Non, mais je pense que le Barça était nettement meilleur, oui.
Mais je ne t'ai pas posé une question du Barça.
Ça vaut pour les deux, Roland.
Mais le Barça peut aussi montrer mieux.
Ça vaut pour les deux. Tu fais l'exploit, c'est un exploit mondial. Mondial, je dis bien. Tu mets sur 10 joueurs de champ en football, 4 gauchers. C'est interdit par la nature de l'être humain. Eh bien, tu arrives quand même à le faire. Et on ne dit rien. Ben, excusez-moi, ben, je suis né bavard, je continue à être bavard.
Bon, il y a plus que 4 gauchers d'ailleurs. Hein, plus que 4 gauchers.
6 gauchers.
Ouais, t'as dit 4. C'est 6 gauchers.
4 droitiers seulement.
Voilà.
Ouais. Donc 6 gauchers. Ouais. Tu as tes deux.
Dont Hernandez, tes deux arrières à droite de la défense centrale.
Et tu sais, quand je dis ça, qu'est-ce qu'on me répond?
Mais Roland, un gaucher c'est un gaucher, un droitier c'est un droitier. Mais non, les amis,
c'est pas moi qui l'ai inventé,
c'est moi qui ai eu la chance de rencontrer des gens plus instruits que moi qui m'ont expliqué qu'un gaucher, il était plus gaucher que ce qu'un droitier peut être droitier, et qu'un gaucher, il était plus maladroit de son pied droit qu'un droitier de son pied gauche. Et derrière ça, nous avons un entraîneur original qui nous met 6 gauchers sur 10 joueurs de champ, et tout va bien pour Marion. Eh ben Marion,
non.
La prochaine fois, il t'en mettra 10 de gauchers, non. Et à ce moment-là, tout ira encore mieux.
Non, je me dis simplement qu'avec les coachs qu'on a eus ces dernières années, je pense qu'avec le stress, l'angoisse, etc., je pense qu'on n'aurait peut-être même pas eu ce spectacle-là du PSG.
En tout cas, c'est un très bon débat, ça, pour l'after, d'ailleurs, hein, que tu lances sur les gauchers. Moi, je trouve ça très intéressant. Les gauchers, c'est vrai qu'on a l'impression que, avec le pied droit, ils sont un peu plus embêtés, alors qu'il y a des droitiers qui sont carrément ambidextres. Hein. Zidane, il était ambidextre.
Non, c'est même pas
Dembélé,
ça.
Dembélé,
j'ai connu des droitiers
François Pinet,
nettement meilleurs du côté gauche que du côté droit.
Ouais.
Je peux te dire de ceux qu'on a tous connus, Amoros, Candela, moi j'ai reconnu Didier Sénac. Donc si tu veux, ce sont des joueurs qui préfèrent. Et bien à ce moment-là, tu es obligé de discuter avec eux et tu t'adaptes à ce qui est le mieux. C'est pas un exploit de demander à ton joueur, tiens, tu préfères, moi je pense que, si le joueur te dit, ben moi aussi, ben tout va bien.
Toi t'es droitier, coach.
Ouais,
droitier. Pas mal du pied gauche.
Moyen. Mais par contre, j'ai connu des gauchers très moyens du pied droit.
Bon voilà, ça c'est un débat qu'on pourrait lancer. On te remercie Arthur, on dit juste que c'est Kovacs qui a été désigné arbitre.
Arbitre roumain
notamment, qui était l'arbitre du match contre Newcastle, perdu 4-1.
Ouais.
Bon, voilà, ça c'était pour la mauvaise nouvelle.
Vas-y, ça a coupé, je n'ai pas entendu.
Kovacs, qui avait arbitré le match contre Newcastle, la défaite en face de 4-1, sera l'arbitre mardi match par sa PSG.
Il n'y aura pas la composition d'équipe avec Vitinha et ailier gauche et tout ça, donc on s'en fout de l'arbitre.
Merci.
Moi, ce qui m'inquiète, c'est la composition d'équipe du Paris Saint-Germain, pas l'arbitre.
Merci Arthur, tu viens quand tu veux, bien sûr, à demain pour d'autres infos sur le Paris Saint-Germain. On vient dans un instant. Et on va parler du match de ce soir entre Lyon et Brest, supporters lyonnais. On vous attend, supporters brestois également. Un match important pour les deux équipes en vue de l'Europe, bien sûr. La Ligue des Champions peut-être pour Brest. Et puis, pourquoi pas un strapontin européen en fin de saison pour les Lyonnais. Restez avec nous sur RMC, à tout de suite.
RMC Intégral Sport.
François Pinet.
18h33, on est ensemble bien sûr jusqu'à 19h dans l'Intégral Sport en direct sur RMC avant Bartoli Time à partir de 19h. Coach Courbis, Marion Hédalo, il y a de l'ambiance hein, dans le studio évidemment, parce que quand on parle du PSG avant le match contre le Barça, évidemment, ça fait de l'ambiance, tout ça à retrouver, le débat animé à retrouver en podcast si vous nous rejoignez maintenant sur l'appli RMC, bien sûr. Dans un instant, on va parler des matchs de l'après-midi en première en Ligue 1 avec la victoire de Nantes au Havre, 1-0, le match nul entre Clermont et Montpellier, 1-0. On entendra quelques réactions. C'est la reprise aussi en Europe pour Arsenal qui va reprendre face à Aston Villa, 0-0 entre les deux équipes. Et puis le Bayer Leverkusen mène 1-0 alors que ça va reprendre en deuxième période face au Werder Bremen, et le Bayer Leverkusen, en cas de succès aujourd'hui, sera sacré champion d'Allemagne pour la première fois de son histoire.
Une petite confidence, même sans succès aujourd'hui, ils seront champions.
Oui, tu as raison.
Et tu le répètes pas.
Là, ça sera officiel, c'est ce qu'on veut dire. Tu sais, nous, les calculs, voilà, etc., etc. On va parler des Lyonnais et des Brestois, puisque ce soir, c'est l'affiche qu'on vous propose sur RMC, 20h45, en direct, en intégralité, dans l'After Live, avant match dès 20h, avec au commentaire Jeannot Rességuier et Edouard Jay qui est avec nous. Salut Edouard.
Salut François, salut Marion.
Salut Doudou.
Alors, c'est le début d'un sprint final pour l'OL ce soir face à Brest, un sprint qui pourrait être vraiment passionnant, puisque les résultats de cette journée, d'ailleurs, sont favorables à Lyon. Ils ont tout vu, hein, les Lyonnais. Défaite de Lens, défaite de Reims, défaite de Rennes. En fait, l'Europe n'est plus vraiment très très loin pour Lyon. Donc, ça peut être vraiment une fin de saison très intéressante.
Ouais, surtout que dans nos discussions, on parle d'Europe pour la 7e place. C'est-à-dire, la conférence s'est considérée comme une Coupe d'Europe.
Oui, la 7e place pourquoi, sera pourquoi européenne, pas. Effectivement, si... Lyon, enfin si le PSG gagne, voilà, ça c'est sûr. Et si Lyon gagne et qu'elle est dans les, qu'ils sont déjà dans les 6 premiers,
Si Paris gagne la Coupe de France et la Champions League, la 8e aussi, il y a des conférences.
Non.
Oh.
Je crois pas.
En tout cas, Roland a l'air de mépriser un petit peu la conférence.
Bon, on va
non, je pense simplement que c'est la consolante de la consolante.
Alors, sur ce sprint final lyonnais, j'imagine qu'on en parle à Lyon, Edouard.
Oui, effectivement. Alors, il y a cette Coupe d'Europe, mais c'est la directement pour les phases de poule. Et ça, c'est celle qui intéresse le plus les supporters et les joueurs, d'une certaine manière. C'est la finale de la Coupe, parce que 12 ans après, ça serait enfin un trophée pour ce club. Et puis, ce serait un billet direct pour la Coupe d'Europe, les phases de poule, à partir du mois de septembre. Donc ça, c'est cette Coupe-là et cette place européenne, elle est à 90, voire 120 minutes, plus une séance de tir au but. Il y a un chemin un petit peu plus long, mais qui peut déjà se raccourcir ce soir, parce que quand on regarde le classement, quand tu rappelle tous les résultats du week-end, qui sont pour l'instant tous favorables. Et si Lyon était amené à gagner en attendant que Marseille joue, eh bien Lyon serait septième, justement, virtuellement dans cette zone
septième
européenne.
Septième à 15 points de la fin.
Exactement, donc à 15 points de la fin avec 5 matchs derrière. Donc, et on voit la dynamique actuelle, on se dit ben, pourquoi pas aller plus haut. Alors, en sachant qu'aujourd'hui, l'OL attaque quand même les grands cols. Hein, parce que jusque-là, il y a eu des matchs à Montpellier, il y a eu des matchs à Lorient, face à Reims. Ben là, on attaque les 4 premiers. Brest aujourd'hui, la semaine prochaine, Paris le premier du classement. Ensuite, ça sera Monaco ici même. Le troisième du classement, et puis Lille pour terminer à Lille sur le premier week-end de mai. Donc là, on est dans les grands cols pour cette équipe de Lyon, mais qui rêve eh bien, d'un titre, qui rêve d'Europe, et quelque part, la grande Coupe d'Europe, c'est la Coupe. Alors, c'est laquelle déjà ? C'est la Conférence League, non ? C'est ça, la deuxième. Et puis.
L'Europa League.
L'Europa League, j'ai perdu. Ça fait 2 ans que Lyon ne les fait plus, j'ai plus l'habitude.
C'est la toute petite.
Exactement.
Il y a la grande, la moyenne et la petite. Voilà.
Exactement. Je les connais, mais là, ça fait 2 ans que je ne les pratique plus. Et on perd vite.
Les Lyonnais ne jouent plus la Coupe d'Europe. Ça y est, ils s'en fichent complètement. Ils ne regardent même plus les matchs. Le jeudi, ils font tout autre chose.
On est en RTT.
C'est incroyable, ça.
Le jeudi, hein.
En fait, voilà, ça t'arrangerait finalement qu'ils ne soient pas en Coupe d'Europe l'année prochaine, les Lyonnais, j'ai l'impression. Juste avant, je voudrais, avant de vous faire réagir, Marion et coach, je voudrais vous faire écouter justement Pierre Sage, l'entraîneur lyonnais, sur ce que disait Edouard. Avec cette série de matchs de haut niveau, Brest donc ce soir, mais ensuite le PSG, Monaco, Lille, c'est une série de matchs qui peut être intéressante à jouer pour les Lyonnais, aussi dans un point de vue de développement de l'équipe. Écoutez Pierre Sage.
Je vois un avantage à ça, c'est que ça nous permet vraiment de valider ou d'invalider un certain nombre de choses dans notre jeu. La valeur de nos performances passera au filtre justement du haut niveau de notre championnat. Donc c'est une chose qui est très intéressante. Ça nous permet aussi de toujours avoir des matchs de très haute intensité avec un enjeu très fort qui va ressembler à ce que sera notre dernier match de la saison. Pour ces deux raisons, je pense que c'est effectivement une bonne opportunité pour nous que d'avoir ce calendrier-là.
Voilà, calendrier difficile, mais une belle opportunité.
En plus de ça, sur un plan psychologique, dans la réflexion, ben, avec la joie de vivre, la joie de jouer, et terminer l'angoisse de la descente, terminer l'angoisse de barrage, dont le Lyon actuellement, ben, c'est pas un cadeau de le rencontrer, ce Lyon.
Et en plus, c'est un Lyon, Edouard le rappelait, qui a 2 possibilités pour rejoindre l'Europe. Donc en fait, ils peuvent être totalement libérés, comme le disait coach, là, sur ces prochains matchs, même si ce sont des rencontres de haut niveau.
Oui, absolument. Et quel parcours, parce que je rappelle quand même que Lyon, cette saison, c'est 4e coach, hein, déjà, comme à Marseille, d'ailleurs. Et surtout, il y a... mais il y a de la qualité, quand même, individuelle. C'est Lacazette qui est 3e buteur de Ligue 1. Ils se sont énormément renforcés on se rappelle de ça, je crois que durant le mois de janvier, ils se renforcent de 7 joueurs, hein, si ma mémoire est juste, vas vérifier François, mais ça doit être autour de ça. Donc ils ont vraiment changé totalement la physionomie de l'équipe, et ils ont payé un petit peu l'après Aulas, ça a été très difficile, mais là moi je suis assez contente pour la Ligue 1 que Lyon retrouve un niveau intéressant depuis le mois de janvier.
Voilà, Lyon, effectivement, avec notamment des joueurs qui se sont imposés très très vite dans l'effectif.
Ouais,
il y a Matic.
Bon, sur les 7 joueurs, je pense qu'il y en a, environ, je ne sais pas ce que dit Doudou, mais j'en vois 5, moi, qui ont apporté un plus. Tu sais la différence que je fais entre
une recrue
et un renfort. Et ensuite, ben, ils ont su, ils ont bien fait, ils ont su se servir d'un règlement qui, pour moi, est un règlement complètement anormal, de pouvoir prendre autant de joueurs à la moitié de la saison.
Moi,
je leur dis...
On va partir dans un débat.
Non, mais je leur dis bravo.
C'est sûr que par rapport à d'autres équipes qui ne peuvent pas mettre autant d'argent lors du mercato d'hiver, mais à partir du moment où il existe et qu'il y a la possibilité de prendre autant de joueurs qu'on veut...
Bravo Lyon d'en avoir profité.
Donc les joueurs en question, il y a Matic, donc recruté à Rennes. Il y a Gift Orban, le joueur de la Gantoise. Oui. Mangala, qui vient de Nottingham Forest. Ben Rama, qui était à West Ham. Malik Fofana, un autre joueur de la Gantoise. Et puis après, Lucas Perry, qui est le remplaçant de Lopez dans les buts. Et Adrielson, le joueur brésilien de Botafogo.
Non, mais c'est pas mal,
ça fait 7 ou 8 ?
Ça fait 7, là.
7, ouais. 7 et 56 millions dépensés. Hein. Voilà. Plus les options, une trentaine de millions potentiels cet été.
Tu te rends compte de cette équipe de Lyon avec cet effectif qui, évidemment, n'a pas la Coupe d'Europe à jouer, donc depuis plusieurs semaines. Ben, quand je vois aussi le plan A et le plan B, quand j'écoute parler le coach Sage, que je trouve très, très intéressant et très compétent, déjà dans ce qu'il fait et dans les explications, quand je vois qu'il y a un plan A et un plan B, ben, c'est pas tous les coachs comme ça. Il y en a qui ont un plan de tout l'alphabet, tu vois. Lui, il a un plan A et un plan B. Et ensuite, quand je vois rentrer à la mi-temps Cherki et Fofana, excuse-moi, mais ce plan B, il est quand même inquiétant pour l'adversaire de Lyon. Donc, on va voir ce soir. Ce soir, il y a cette équipe de Brest qui est un petit peu la surprise, mais cette surprise, elle dure maintenant depuis longtemps. Et là, c'est un test que je vais voir avec beaucoup de curiosité. Je ne m'imagine pas Lyon perdre contre Brest, mais évidemment que je peux me tromper.
On a des petites indiscrétions compo, d'ailleurs, Edouard, sur cette rencontre.
Non, pour l'instant, on a juste une interrogation derrière qui va remplacer Dea Douye Khaled-Tatsar, qui est suspendu. Donc, est-ce que ça va être Clinton Mata ? Est-ce que ça va être Ashley Maitland-Niles ?
C'est vrai que le duo, il marchait quand même assez bien.
Avec Jacob Ryan, ou un Corentin Tolisso qui peut être derrière. Alors bon, on imagine plus Clinton Mata associé à Jacob Ryan parce qu'on l'a déjà vu. Et puis après, il y a savoir si, côté de Saïd Benrahma et d'Alexandre Lacazette, là je vous parle bien évidemment de l'attaque, est-ce que Ryan Cherki a doublé lors des séances de l'entraînement dans la semaine, dans la tête du staff et de Pierre Sage, eh bien Ernest Nuhama, qui avait plutôt les faveurs des titularisations récemment. Mais Ryan Cherki, est-ce qu'il va être plus qu'un super sub aujourd'hui? On va peut-être mettre une petite pièce sur Ryan Cherki.
Pas
la compo.
On mettra peut-être une pièce, mais après, est-ce que ça sera une bonne solution? On le verra aussi. On sait que Cherki, ces derniers temps, en rentrant en cours de match à la deuxième période ou à 35 minutes de la fin, c'est quand même un plan B redoutable. Ce plan B, ça devient un plan A, on verra aussi le match de Cherki et on aura peut-être l'occasion de regretter Cherki dans le plan B.
Alors on a beaucoup parlé de Lyon, évidemment, puisqu'Edouard est avec nous. On va parler de Brest aussi tout au long de la soirée. On aura l'occasion d'y revenir dès 20h dans l'avant-match, cette équipe brestoise qui a un parcours incroyable et qui pourrait faire d'ailleurs un grand pas en cas de victoire. Alors, vers la Ligue des Champions, mais vers l'Europe. Hein. Ça sera quasiment assuré. Il serait quasiment sûr de terminer dans les six premiers. Quoi.
Oui, voilà.
Si Brest gagne ce soir, mais je pense qu'ils sont pratiquement presque assurés de la Champions League.
Encore une fois, on fait. Tu sais, c'est tant que mathématiquement.
Oui,
on est journaliste.
Je sais très bien les dégâts que fait la victoire à 3 points.
Voilà,
je
c'est pour ça qu'on dit. On se couvre en disant tout ça.
Non, mais je vais pas vous faire plaisir hein, sur le plateau, mais moi je trouve que ça pourrait être assez catastrophique quand même de présenter
Brest en Ligue des Champions.
Oui, c'est une catastrophe pour la Ligue 1.
Pourquoi
une
catastrophe. Ils ont mérité.
Non, mais le mérite ne suffit pas, je crois, pour être respecté quand même sur la scène internationale. Il y a un moment où quand on va se retrouver, moi je réfléchis à ça hein, quand même.
Les grands clubs se sont qualifiés en Coupe d'Europe, ils n'ont pas non plus brillé.
Non,
hein,
mais on
même si c'était des grands clubs.
On
français,
tente comme on peut d'essayer d'exister à côté de la Première Ligue, de la Liga, de la Bundesliga et du Calcio.
Ah ouais,
et finalement, je me dis, est-ce que finalement, ça ne serait pas mieux de voir peut-être Brest en Ligue Europa et pas en Ligue des Champions? Moi, j'ai quand même...
D'accord.
Je trouve que ça prend une place, si vous voulez, trop grande.
Ça peut être difficile après à vivre hein, pour les Brestois, évidemment, pour la saison d'après.
Mais
on est d'accord.
Mais toute la Ligue 1.
Mais après, pourquoi
les droits
télé,
c'est tout ça après. Ouais. C'est tout ça. Et moi, je pense toujours un petit peu à ça.
Dans ce cas-là, on fait une ligue fermée. Et puis voilà, alors on dit au club non, toi, tu n'as pas le droit d'aller en Ligue des Champions. Et puis toi, et puis on fait des compétitions uniquement sur le budget. Ça, c'est la Super Ligue. Hein.
Non, mais peut-être
on fait des compétitions uniquement à partir du budget des clubs.
Je suis une petite mamie, je crois. Et j'ai l'habitude, effectivement, plus de voir l'OL, l'OM, Monaco en Ligue des Champions. Et je pense que c'est en tout cas meilleur pour le championnat français. Vraiment, je le pense sincèrement. Bon. Et vous le savez très bien d'ailleurs.
Je vais être sympa parce qu'on m'a dit là dans le casque que tu as fait fêter ton anniversaire il n'y a pas longtemps, c'est ça ?
Absolument pas, mais on peut me le fêter comme ça. On peut le fêter, mais non, c'est le 27 juillet. Bon, allons-y. Hein, voilà. Donc c'était il n'y a pas longtemps, puis c'était le 27.
Je ne sais pas, alors, je sais pas qui me parle.
Je crois qu'on t'a un peu piégé là-dessus.
Je vais le dire à l'antenne. C'est notre réalisateur Toto qui m'a dit ça, parce que voilà, il pensait que c'était ton anniversaire. Mais non. Je ne sais pas, peut-être qu'il était invité. Il a cru qu'il était invité.
Mais il sera invité. Bien évidemment. Ainsi que Luis Enrique et Roland beaucoup, pour un dîner.
On parlera de la différence entre une gauche.
Voilà.
Bon, on va remercier Edouard en tout cas d'être passé. Edouard, à ce soir pour le match Lyon-Brest. Exactement. 20h45 bien sûr, en direct en intégralité à suivre sur RMC en direct du Groupama Stadium, l'after live avec Jean-Louis Tour, suivi de l'after, vous le savez, toute la soirée. Dans un instant on vient sur les matchs de l'après-midi, la victoire de Nantes au Havre et le match nul entre Clermont et Montpellier. Restez avec nous sur RMC, l'intégral sport continue, à tout de suite.
RMC intégral sport,
François Pinet.
Il est 18h49, 10 minutes avant de retrouver Bartoli Time sur RMC en direct. On parle de foot depuis une heure bientôt avec Marion Hédalo, avec Coach Courbis, avec bien sûr la Ligue 1 au programme. Il y a également du foot européen avec à l'instant un deuxième but pour le Bayer Leverkusen.
Quel
un but,
beau but
superbe
plus.
De Xhaka, Granit Xhaka, le Suisse, qui permet à Leverkusen de se diriger tranquillement vers un premier titre de champion d'Allemagne.
Incroyable.
Toujours invaincu depuis le début de la saison, ce club, toute compétition confondu. Xabi Alonso qui va rester
l'homme de la saison. Hein.
C'est l'entraîneur de la saison. Je suis assez d'accord. Il est incroyable. Et la saison n'est pas terminée pour Leverkusen, encore engagé en Europa League notamment. Et puis toujours 0-0 entre Arsenal et Aston Villa.
Il met pas beaucoup de gauchers dans son équipe.
On va se renseigner. On va parler tout de suite des matchs de la 29e journée de Ligue 1 avec pour commencer le match entre Le Havre et Nantes, puisque c'était un match très très important dans le bas du tableau et une victoire très précieuse des Nantais, 1-0 face au Havre grâce à un but de Bamba à la 93e minute. Christophe Lécuyer était au stade et a commenté la rencontre. Il est avec nous, Christophe. Salut.
Bonsoir François, bonsoir Marion, bonsoir coach.
Bonsoir.
Alors on va parler des Havrais dans un instant, Christophe, mais c'est une victoire nantaise très très importante. Juste avant de t'entendre, Christophe, on va écouter une première réaction que tu as pu recueillir, celle de Nicolas Palois, le défenseur nantais.
Il fallait gagner à tout prix. Déjà pas perdre, mais gagner. Et à la dernière minute comme ça, c'est top. Contre Lyon, je pense qu'en deuxième mi-temps, la lumière s'est éteinte. Et je pense qu'il fallait montrer un autre visage. On a fermé et Kader fait du bien à la fin. Je pense qu'il fallait prendre des points au Havre. Là, maintenant, il va falloir bien préparer le match pour la semaine prochaine.
On a senti, Christophe, deux équipes tendues. Quand même, parce que ça n'a pas été non plus un grand match de football et ça s'est joué à la toute dernière minute en faveur des Nantais qui se donnent un petit peu d'air au classement.
Ouais, c'est complètement ça, on s'y attendait. La première mi-temps a été relativement fermée, plutôt maîtrisée par les Nantais avec peu d'occasions, on ne va pas se mentir, on s'est quand même globalement ennuyé sur les 45 premières minutes. La deuxième mi-temps, elle a été plus ouverte avec un gros premier quart d'heure des Havrais matérialisé par les bonnes rentrées de Casimir et de Ngoura, mais faute d'avoir concrétisé sur ce temps fort, eh bien les Havrais l'ont regretté puisqu'on l'a dit, il y a eu ce but de Kader Bamba inscrit dans le temps additionnel, très bien servi d'ailleurs par son capitaine Thierry Bellon. Mais pour le reste, effectivement, les Havrais accusent le coup. Hein. Ce soir, ils savent qu'ils ont perdu une bataille importante dans l'optique du maintien, tandis que les Nantais, tu le disais, eh bien, arrachent une victoire précieuse. Ils creusent l'écart sur un concurrent direct et puis évidemment, ça les met en confiance pour la dernière ligne droite de championnat.
On a quand même troisième match d'Antoine. Au milieu, a eu de chance quand même Antoine de se retrouver avec un match sans spectateur à huis clos. Et bon, là, ce qu'on peut regarder mathématiquement, c'est 2 x 3, 6. 6 points en 3 matchs pour Antoine, tout en perdant le match à domicile, ben, malheureusement, avec sans aucun public. Mais c'est tout simplement un exploit pour moi.
5 points d'avance sur le barragiste Lorient qui jouera le 24 avril son match face au PSG. Pour le Havre, en revanche, c'est la dégringolade là, ces derniers temps, hein, Christophe. Hein,
Le Havre, plus mauvaise attaque de Ligue 1. Un seul succès sur les 11 dernières journées de championnat. La statistique est terrible, hein, évidemment, pour les joueurs de Lucas Elsner, l'entraîneur havrais, marqué, évidemment, moralement, psychologiquement, à la fin de la rencontre, même si, évidemment, il s'efforce de garder la confiance pour la fin du championnat.
En plus, à la dernière minute.
On l'écoute. Lucas Elsner. On écoute Lucas Elsner, l'entraîneur.
On tourne autour du pot, je pense un petit peu tout au long de la saison. On essaie de trouver les solutions, mais ça passera pas par un triplé d'un joueur. Ça passera par un but décisif, un but clé dans un moment. Et je pense que les garçons doivent prendre de plus en plus de responsabilités pour terminer au moins nos actions et faire que par la répétition, en plus par les coups de boutoir sur le but adverse, on puisse passer. On n'est pas passé loin aujourd'hui, parce qu'on a des sauvetages en catastrophe, des ballons qui passent à quelques millimètres. Mais oui, on aurait pu en faire encore 4-5 de plus et forcer le destin.
Lucas Elsner, l'entraîneur du Havre, on va te remercier Christophe parce qu'on voudrait quand même retrouver Damien Tardieu pour parler de Clermont-Montpellier. Ouais. Mais le prochain match des Havrais, à ne pas rater sur RMC, dimanche 15h. Tu seras là d'ailleurs ?
Bien évidemment, voilà. Depuis le stade Océane, le Havre 15e qui recevra Metz le 17e, un nouveau match de la peur.
Deux points de retard entre le Havre et Metz, ça c'est un match à ne pas rater bien sûr. Des matchs comme on les aime, nous les journalistes, un peu moins les joueurs. Merci Christophe.
Merci à vous.
À très bientôt bien sûr sur RMC. On va accueillir Damien Tardieu qui a suivi Clermont-Montpellier, le match nul, un but partout entre les deux équipes. Salut Damien.
Salut Marion, salut François, salut coach.
On va terminer avec toi, raconte-nous cette rencontre qui s'est donc terminée par un match nul logique au vu du match ou pas ?
Alors logique, si vous en parlez aux Montpellierains, je ne suis pas sûr qu'ils soient d'accord parce qu'ils ont globalement maîtrisé, dominé cette partie. Il y avait une supériorité technique du côté Montpellierain. Pourtant, c'est Clermont qui avait ouvert le score avec ce pénalty en deux temps transformé par Cham puisque l'arbitre l'a fait retirer puisque sur la première frappe, le compte avait arrêté mais il avait quitté son appui, en tout cas avait quitté la ligne. Donc Clermont menait 1-0 à la mi-temps. Et puis paradoxalement, au moment où les Clermontois étaient le plus dangereux, le mieux dans le match, eh bien, c'est Montpellier qui a égalisé par Koulibaly. Montpellier a eu l'occasion de remporter ce match avec notamment une énorme occasion pour Wahbi Khazri, mais ça fait un partout et les Montpellierains à la fin du match, allez, ils s'en contentaient, on dira, parce que c'est vrai qu'ils auraient aussi pu le perdre. Pour les Clermontois en revanche, vu la situation comptable, c'est un point qui ne suffira sans doute pas pour se sauver en fin de saison.
Clermont, oui, c'est deux matchs, ouais, Clermont c'est deux matchs gagnés en 2024. Voilà, rapidement, c'est rapide.
Ça, c'est rapide et efficace.
C'est clair.
Et
voilà,
ça on aime.
Clair.
On aime quand on est pris par le temps. Merci beaucoup, Marion. Damien, on va te remercier. Damien, merci beaucoup d'être passé, d'être resté, évidemment, pour nous parler de ce match nul entre Clermont et Montpellier. Clermont qui est donc à 4 points, avec 4 points de retard maintenant sur Lorient, le barragiste, et 6 points de retard sur le Havre.
Rappelons-nous qu'au match aller, il y a eu ce fameux...
Le pétard. Hein,
ouais.
Le pétard dont on se souvient.
C'est sûr que c'est un souvenir pour Montpellier, c'est peut-être le tournant de la saison. Et là, cette saison, on s'est bien arrangé sur ces dernières semaines parce que j'étais quand même assez inquiet pour Montpellier.
Tu as été efficace aussi. Hein. C'est bien de te mettre avec Marion parce que tu es efficace aussi sur tes réponses. Merci beaucoup, coach, en tout cas. C'était un plaisir de t'avoir nous dans l'Intégral Sport. À très bientôt sur RMC. Merci beaucoup,
merci,
Marion.
Merci beaucoup.
Et à bientôt. On te retrouvera la semaine prochaine à partir de 17h. Là, il y aura un match de Ligue 1. La Ligue 1, vous le savez, c'est à suivre, bien sûr, sur les antennes d'RMC avec dès ce soir, 20h45, le match entre Lyon et Brest. Allez, à 18h56, il est temps de laisser la parole et la main à Bartoli Time. C'est dans un instant sur RMC avec Sarah Pitkowski, avec Alexandre Biggerstaff pour revenir sur l'actualité sport de tout ce week-end. Restez avec nous sur RMC. Très très belle soirée à vous.